deuxième catégorie de plaideurs. Est-ce qu'on verra dans le mal un châtiment dont le but serait double? D'abord, rétablir la justice qui a été bafouée par le péché, et ensuite, élever le pécheur. Alors là, nous avons affaire à un thème qui est très ancien, qui est classique, et qui se traduit dans des formules populaires très courantes. Après tout, tu l'as bien mérité. Tu n'as que ce que tu mérites. Un philosophe le plus long écrit, c'est dans l'usage que l'homme fait de sa liberté qu'est le principe des maux dont il souffre. Et comme il est évident que ce n'est pas en usant bien de cette liberté que l'homme fait son malheur, il faut que ce soit en usant mal. Telle est la solution nécessaire du problème du mal. Si l'homme souffre, c'est parce qu'il pêche. Ce thème est en effet très ancien. Il y en a même des traces dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais les objections contre ce thème sont aussi très anciennes. Aussi anciennes que lui. Premièrement, il apparaît vite que le mal et la souffrance ne sont pas répartis conformément au mérite de chacun. C'est évident. Comme disait Malebranche, le soleil se lève indifféremment sur les bons et sur les méchants. Il brûle souvent les terres des gens de bien, alors qu'il rend féconde celles des impies. Les hommes ne sont pas malheureux à proportion qu'ils sont criminels. Par conséquent, si l'on parle de justice, il ne peut s'agir que d'une justice divine qui est bien différente de la nôtre. Alors, on risque fort de lui prêter ce qu'on veut. Écrit alors ce qui nous paraît beaucoup plus grave, avec une telle argumentation, on rend incompréhensible la révolte de la conscience. Nous le dirons tout à l'heure, ce qui est important, ce n'est pas le mal. C'est la révolte de la conscience contre le mal. Si la souffrance est un juste châtiment, purement et simplement, la conscience n'a pas à se révolter. La révolte de la conscience devient quelque chose de tout à fait illusoire.